Alors, on pourrait dire que le projet du livre de l'illusion créative est le fruit de mes 25 dernières années d'expérience professionnelle à titre de concepteur stratège dans les domaines de la communication, du marketing et de l'événementiel. J'ai réalisé plusieurs mandats pour des organisations de différents acabits, que ce soit des PME locales jusqu'à la multinationale pour des gouvernements, des ministères et aussi bon nombre d'institutions. Mon champ de livraison est ce qu'on pourrait considérer de très élargi quand on considère que j'ai travaillé autant sur des campagnes de sensibilisation, par exemple sur l'équité des genres, que des lancements de produits pour des grands manufacturiers comme BRP dans des casinos américains. Et pour vous donner une idée, je suis présentement, j'agis à titre de directeur des projets spéciaux pour une banque alimentaire, donc la banque alimentaire de la région dans laquelle j'habite. C'est au fil de centaines de rencontres avec des équipes créatives d'ici, tout comme à l'étranger, que je me suis rapidement rendu compte que je sois à Montréal, à Toronto, à Rovaniemi en Finlande, à Gunskirchen en Autriche, que ce soit à Ghent en Belgique, à Dallas du côté américain ou même à El Paso du côté mexicain, qu'au-delà du fait qu'on mange peut-être pas les mêmes choses, mais on partage quand même beaucoup de points communs. Le premier, c'est cette forme d'appétence pour l'innovation et toute la lexicologie autour du terme. On se rend compte que ce terme a la même popularité à l'échelle mondiale. Ce qu'on partage aussi, c'est une forme de retenue, une forme de non-fluidité dans le partage des idées. Est-ce que ça serait dû à la culture des organisations que j'aurais visitées? On est en droit de se questionner quand on retrouve ou on frappe la même situation dans différents endroits dans le monde en même temps. Est-ce que c'est parce que j'agissais à titre d'expert qui était supposé avoir et être responsable de fournir la meilleure idée autour de la table? Il en demeure pas moins que j'ai toujours trouvé étrange le fait de la part des organisations d'externaliser toute la portion de la création, de confier à des partenaires externes des sujets dans lesquels la lecture fine des membres de l'équipe est à ce point précise. Est-ce que ça, on pourrait dire que c'est des contre-coups de la division scientifique du travail ou de la spécialisation croissante? Qui sait? On peut dire que j'ai toujours été reconnu comme étant une personne qui avait une grande capacité à arriver par les endroits où on l'attendait le moins, donc une forme de vision élargie. J'ai un de mes collègues d'ailleurs qui m'a toujours surnommé le Hannibal de la création, en mentionnant que j'avais fait traverser mes éléphants à des endroits qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer. Alors, on m'a souvent posé la fameuse question, quel chemin, Jean-Sébastien, tu prends pour arriver à tes conclusions? Quand on me pose cette question-là, c'est sûr que la première réflexion qui me vient en tête et qui m'est toujours venue, c'est que ce n'est pas qu'un chemin. C'est aussi le fruit d'une manière de voir, hein, une manière de vivre. C'est le résultat de tout ce que je lis, que j'ai pu lire et que j'ai pu observer, mais aussi beaucoup basé sur mes motivations. Bon, je vous dirais que l'époque, sans surprise, m'a pas attendu pour elle-même fournir une réponse à cette question, et il n'y aura rien de surprenant dans le fait qu'elle est misée sur la technique, hein, cette ère de grande technicité. Je parle ici de toutes les techniques de création qu'on peut attendre. J'en nomme quelques-unes, le brainstorm, le mind mapping, le stage gate, tous des termes que vous avez entendus. Alors, l'époque aura soit misé sur la technique ou soit sur l'expertise, qui aura conduit à la formation de laboratoires ou de départements R&D. Qui, malheureusement, ne concentre d'habitude que 1 à 3% de toutes les neurones disponibles au sein d'un groupe. Je me suis toujours dit qu'en s'en remettant totalement à des techniques, l'époque semblait oublier que la créativité demeure une créature avant tout individuelle. C'est une question d'individu. Il n'y a aucune technique qui peut changer les gens. Si vous ne faites pas confiance à l'environnement et la culture dans lequel vous êtes, même si je vous entre dans une salle pour faire un remue-ménage, ça ne changera pas votre niveau de confiance, tout comme ça n'influera pas non plus vos connaissances spécifiques. C'est donc de dire que, à la recherche des fondements de la créativité, j'ai toujours eu l'impression qu'on devait aller beaucoup plus creux. C'est d'ailleurs pour ça, pour décomposer ce qu'est vraiment une idée, pour comprendre c'est quoi les mécanismes de la créativité, qu'est-ce qui fait que des gens, des nations ou des organisations, à des époques déterminées, auront réussi à tirer leur épingle du jeu en termes d'innovation plus que d'autres. C'est pour ça que l'illusion créative a été écrite, mais pas seulement. Car le projet vise aussi à tester une hypothèse, celle que malgré toute l'importance qu'on accorde au lexique innovant, que nos sociétés modernes risqueraient d'être victimes d'une illusion en s'imaginant que notre époque serait la plus créative de toutes les autres, car dans les faits, nos mêmes sociétés, nos mêmes organisations comporteraient dans les faits plus d'entraves que de bénéfices à la création. Qui aurait pu imaginer, v'là 2 ans, à quel point, dans un contexte de si grande pression à l'échelle économique, géopolitique et même sociale, à quel point le sujet, serait à propos aujourd'hui? J'ai déjà lu à quelque part que l'ampleur des crises sociales serait proportionnelle au temps que prend ces sociétés à changer de modèle. Pas obligé de se dire que c'est plus qu'urgent. Le besoin qu'on a en date d'aujourd'hui que de se repenser, que c'est plus important que jamais, qu'on puisse disposer de notre capacité créative, on va dire optimale, pour nous permettre de rebondir. L'illusion créative, c'est pas un énième ouvrage sur une des techniques de création à la mode. Ce n'est pas non plus les 5 conseils pratiques pour toujours trouver la meilleure idée. C'est un ouvrage qui retourne au fondement de la créativité. Et écoutez, on mesure nos mots, on a même reculé jusqu'à l'homo habilis, il y a 2 millions d'années, pour être certain qu'on commençait dès le départ. Alors, on a suivi le parcours, l'évolution de notre capacité créative humaine, et ce qui nous a permis d'aborder la créativité par des nouveaux prismes. Car si c'est la faculté qu'on a parmi les plus précieuses, existerait-il pas un danger de continuer à la prendre pour acquis? Les lecteurs et les lectrices qui vont lire le livre vont découvrir une série d'outils qui ont spécialement été conçus pour le projet. Que ce soit le climat créatif, on se rend compte que vous vous occupiez ou non du climat créatif, vous allez en former un, soit positif, soit négatif à votre créativité. On a développé l'écosystème de l'idée dans lequel vous allez retrouver les 4 profils d'individus principaux qui permettent à une idée de passer de l'étape de sa naissance à sa matérialisation. Rares sont les cas où une seule personne disposerait de toutes les capacités et compétences pour mener à terme un projet. On y retrouve aussi le cycle de l'idée, donc le parcours, les différentes étapes que vit une idée de sa naissance à sa réalisation. Et dans les faits, c'est capital parce que pour une collectivité, qu'est-ce que ça vaut d'avoir une idée si on n'est pas en mesure de la réaliser, de la potentialiser? Donc c'est important d'être en mesure d'identifier le chemin que nos idées prennent pour s'assurer qu'elles ne vivent pas de blocage. On a aussi inclus beaucoup de cas et de personnages historiques qui nous permettent de couvrir les moments charnières de certaines des grandes innovations, les personnages influents, les impacts de certains de ces moments-là auront eu sur l'innovation mondiale, certains pièges tendus d'époque qui ont toutes les chances d'exister encore aujourd'hui, et par-dessus tout, une série d'exemples qui prouvent que face à l'adversité, face au besoin de se repenser, nul besoin de paniquer, on l'a déjà fait des centaines ou des milliers de fois. Ces colonnes auront permis de se poser des questions. On se demande si un non-expert, comme l'était Gutenberg, réussirait aujourd'hui à obtenir le financement nécessaire à son projet. Qu'est-ce que le banquier lui répondrait? Est-ce que nos scientifiques modernes réussiraient encore aujourd'hui à écouter un jeune de 15 ans qui leur fournirait la meilleure des solutions? C'est quand même ce qui est arrivé avec Louis Braille et son système de lecture éponyme. Est-ce que la version du risque, notre besoin de prévisibilité si importante au 21e siècle, est-ce que ça ne serait pas en train de devenir nos nouvelles superstitions? Est-ce qu'on n'est pas en train de se créer notre propre cape Bojador qui a retenu les Portugais pendant autant d'années? Finalement, vous trouverez dans l'ouvrage une démarche qui permet, de manière innovante, c'est dit, aux collectivités et aux organisations d'être en mesure d'évaluer l'état de santé de leur créativité. Donc, un outil qui permet de prendre le pouls pour mieux comprendre dans quelle position on se retrouve. Une approche qui est à ce point simple et intuitive, qui est facilement implantable par les différentes équipes. J'espère que les gens qui vont acheter le livre seront donc des professionnels et des gestionnaires de tous les secteurs, parce que ça s'adresse à tout le monde. Quiconque a comme désir d'optimiser la créativité de l'organisation et bien sûr la créativité de leur équipe. C'est ça, bien sûr, aussi des gens qui sont spécialisés en recherche et en innovation, que ce soit des chefs d'innovation, des départements d'R&D et de marketing, donc des gens qui œuvrent en créativité au quotidien. Ça intéressera aussi citoyens, citoyennes, tous citoyens, citoyennes qui sont curieux, curieuses, mais aussi désireuses de retrouver l'espèce de droit de créer, cette autorisation-là à pouvoir proposer des solutions à des enjeux sociaux qui les impactent directement. Les enseignants, les responsables de développement de cursus scolaires vont aussi y trouver leur compte, jusqu'aux parents, les amis, parents, des parents conscients que leur maison aussi génère son propre climat créatif. Vous devez savoir que nous avons testé les concepts de l'illusion créative dans la dernière année par le biais d'une conférence qui est ouverte et qui est disponible à l'industrie. On a donné 5 conférences en 2024, des événements dans lesquels, bien sûr, les réactions ont été positives, ce qui nous a bien sûr enchantés, tantôt même très fortes. Je m'excuse de l'anglicisme, mais si j'utilise un terme qu'on a quand même lu souvent, c'est le terme « eye-opener ». Donc, quand c'est un commissaire à l'innovation du Québec qui vous dit que ça a été un « eye-opener » pour lui, on se dit qu'on est sur la bonne route. Juste aussi pour que vous sachiez qu'on est en discussion avec l'innovateur en chef du Québec. Avec quel résultat, l'avenir le dira. Mais pour la création de ce qu'on a nommé avec affection, le Bureau national des idées. Donc, une nouvelle idée, justement, qu'on propose. Je termine avec une invitation et un désir. L'invitation à ne jamais négliger votre dernière idée. Car qui sait? C'est peut-être celle qui verra que le monde changer. Et le désir, celui de permettre à demain d'être différent. Si on juge qu'elle doit l'être.